Le miroir du moi. Pendant les 15 ans qui suivront, c'est à l'imaginaire que Lacan consacre ses réflexions. Comment expliquer que l'image ait sur la conduite de l'homme un tel pouvoir qui va bien au-delà de ce qu'il peut en connaître? Comment se constitue l'imago inconscient? Lacan prend appui sur des faits repérés par les psychologues dans le développement de l'enfant. L'enfant a une perception précoce de la forme humaine. Le visage humain fixe son intérêt dès le 10e jour et surtout dès le 6e mois lorsqu'il rencontre son image au miroir. L'enfant jubile et triomphe alors même qu'il ne dispose pas de la maîtrise effective de son propre corps. Dans le miroir, c'est lui-même qu'il voit. Il perçoit la forme visuelle de son corps alors qu'il n'avait que l'expérience intérieure de l'incoordination motrice. C'est ce qui explique sa jubilation. Mais aussi, cette image, ce n'est pas lui, c'est celle d'un autre, son semblable, qui lui est supérieur, qui prend sa place. D'où oscillation entre triomphe et dépression, amour narcissique et hostilité. C'est cette expérience fondamentale que Lacan appelle le stade du miroir et dont il fait la matrice de la constitution du moi.
C'est cette captation par l'imago de la forme humaine qui, entre 6 mois et 2 ans et demi, domine toute la dialectique du comportement de l'enfant en présence de son semblable. L'enfant qui bat dit avoir été battu. Celui qui voit tomber pleure. De même, c'est dans une identification à l'autre qu'il vit toute la gamme des réactions de prestance et de parade dont ses conduites révèlent avec évidence l'ambivalence structurale. Esclave identifié au despote, acteur au spectateur, séduit au séducteur. Il y a là une sorte de carrefour structural, où nous devons accommoder notre pensée pour comprendre la nature de l'agressivité chez l'homme et sa relation avec le formalisme de son moi et de ses objets. Ce rapport érotique, où l'individu humain se fixe à une image qui l'aliène à lui-même, c'est là l'énergie et c'est là la forme d'où prend origine cette organisation passionnelle qu'il appellera son moi. Cette forme se cristallisera en effet dans sa tension conflictuelle interne au sujet qui détermine l'éveil de son désir pour l'objet du désir de l'autre. Aussi bien, les deux moments se confondent-ils où le sujet se nie lui-même et où il charge l'autre, et l'on y découvre cette structure paranoïaque du moi qui trouve son analogue dans les négations fondamentales mises en valeur par Freud dans les 3 délires de jalousie, d'érotomanie et d'interprétation. C'est le délire même de la belle âme misanthrope rejetant sur le monde le désordre qui fait son être. L'expérience subjective doit être habilitée de plein droit à reconnaître le nœud central de l'agressivité ambivalente. Ainsi, saint Augustin devance-t-il la psychanalyse en nous donnant une image exemplaire d'un tel comportement en ces termes « Vidi ego, et expertus homme zélantem parvulum, non dom loquebatur, et intuebatur pallidus amaro aspectu, conlacté un homme suum. J'ai vu de mes yeux, et j'ai bien connu, un tout petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore, et déjà il contemplait, tout pâle et d'un regard empoisonné, son frère de lait. Ainsi noue-t-il impérissablement avec l'étape infance, d'avant la parole, du premier âge, la situation d'absorption spectaculaire, il contemplait, la réaction émotionnelle, tout pâle, et cette réactivation des images de la frustration primordiale et d'un regard empoisonné, qui sont les coordonnées psychiques et somatiques de l'agressivité originelle.
Le moi a son fondement dans l'imaginaire. Le moi a une structure paranoïaque. Le désir porte sur l'objet du désir de l'autre. Toutes ces thèses que Lacan développe dans les années d'après-guerre vont en sens contraire de l'orthodoxie psychanalytique de l'époque qui domine depuis la mort de Freud en 1939. Pour les orthodoxes, la cure psychanalytique a pour but de renforcer le moi, dont la fonction serait d'assurer l'adaptation.